Europe 1.
Jusqu'à 9h, vous êtes avec Bernard Poirette sur Europe 1.
Le tour de table culturel de ce samedi matin, 50-50, Mathieu Charrier et moi du côté des garçons, Diane Chénouda et Angèle Châtelier pour les filles. Jeunes gens, bonjour.
Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors
bonjour.
C'est vous qui commencez, Mathieu Charrier, parce que vous êtes, dirons-nous, le plus au cœur de l'actualité. Pourquoi ? Parce que les salles de cinéma rouvrent après-demain. Et il était plus que temps. Alors ouais. Avec des mesures de sécurité sanitaire dont on peut débattre à l'infini et qui me semblent totalement foireuses personnellement, mais on ne va pas revenir là-dessus.
Mais bon, pas si contraignante que ça, j'ai testé.
Attendez, excusez-moi, c'est quand même violent. Enfin bon, on ne va pas en parler là, ce n'est pas le sujet. Donc pas mal de films vont ressortir, notamment le De Gaulle, joué par Lambert Wilson, La Bonne Épouse, portée par Juliette Binoche, j'ai vu les affiches sur les colonnes Maurice. Vous nous en aviez parlé à l'époque, donc en mars, mais ce matin, vous nous conseillez deux nouveautés intégrales, deux films qui auraient dû sortir en plein confinement. Le premier s'appelle Benny.
Oui, et c'est aussi le prénom de son personnage principal, Benny, donc 9 ans, délaissé depuis sa naissance par sa maman, ce qui a engendré chez elle beaucoup de violence qu'elle n'arrive pas à contenir. Alors évidemment, elle est moquée par ses camarades de classe qui la prennent pour une folle. Elle est aussi incomprise de l'assistance sociale qui la trouve ingérable, je cite. Il n'y en a qu'un qui a la patience de l'écouter et de l'accompagner, c'est son éducateur, Micha, qui tente de soigner toutes ses blessures en lui imposant un séjour en forêt. Alors vous allez me dire, oui, des films sur des enfants violents parce que délaissés par leurs parents, on en a déjà vu, c'est vrai. Mais celui-là est particulièrement poignant, je vous assure, très punk dans sa forme, dans son esthétique. C'est une affiche toute rose, vous avez peut-être vu dans la rue. C'est un premier film très réussi, sans jugement et franchement qui vous marque. Moi, je l'ai vu il y a plusieurs jours et j'ai encore le visage de cette Benny en tête. Elle est interprétée par une jeune actrice qui s'appelle Elena Zengel. Donc vraiment, ne manquez pas ce film. Ça sort pour la réouverture de ces salles et ça fait partie de ces petits films qu'il faut, à mon avis, aussi aider et aller voir. Donc ça s'appelle Benny.
Et donc, ça sort lundi et non pas mercredi. Ouais. Ça sort lundi, jour béni de la réouverture du cinéma en France. Et puis, dans un tout autre genre, Mathieu, vous voulez aussi nous conseiller The Hunt, La Chasse.
Alors, la Chasse, si on le traduit en français, là, c'est un film d'horreur et un film horrible qui a d'ailleurs fait polémique, je vous explique. Imaginez, des citoyens américains qui ne se connaissent pas, mais ils se réveillent dans une sorte de champ, ils se demandent comment ils en sont arrivés là, découvrent une grande caisse en bois, ils l'ouvrent, elle est remplie d'armes à feu. Alors, ils s'en saisissent, curieux, et à ce moment-là, on commence à leur tirer dessus, littéralement, sans raison, de loin. Ils ne savent pas qui tire, mais ils tombent, morts, les uns après les autres. Alors, certains parviennent à se cacher, à riposter, mais la bataille, évidemment, s'annonce plus que déséquilibrée. Et on va en fait comprendre qu'ils ont été capturés pour être envoyés dans une sorte de manoir où de riches dirigeants se rassemblent pour une chasse à l'homme, véritablement, pour chasser, je cite, de simples citoyens américains, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors évidemment, l'une de ces proies, un peu plus maligne que les autres, va leur mener la vie dure. C'est malaisant, le film devait sortir aux États-Unis, il avait été déprogrammé après une nouvelle tuerie de masse. L'administration Trump a essayé de le faire interdire, parce qu'évidemment, c'est un film qui est aussi politique en arrière-fond, même si très franchement, c'est pas aussi binaire que ça peut y paraître. C'est vraiment toute la société américaine qui est visée et qui est moquée. Donc c'est à voir avec toutes les précautions que je viens de vous donner et qui vont avec. Mais franchement, c'est à voir. Ça s'appelle The Hunt.
Ça me rappelle un film extraordinaire des années 30 qui s'appelait Les Chasses du Comte Zaroff. Vous vous souvenez de ça?
C'est un peu le
ça
même genre.
Ça se passe dans une île et il lâche des types dans l'île qui font les gibiers. Enfin bon, passons. Bon, écoutez, moi, ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais peut-être
je
y aller. Bon, vous avez, Angèle Châtelier, une personne aussi talentueuse que mystérieuse dont vous voulez nous parler. Bon, en fait, elle est actrice, elle est chanteuse et pas que ça. Elle sort un nouvel album cette semaine, c'est Ariel Dombal.
Oui, avec son ami et musicien Nicolas Kerr. Tous les deux publient un album sensuel, psychédélique, magnétique, appelé Empire. Leur duo est décalé, déjanté. Lui, Nicolas Kerr, est une figure du post-punk, connu pour être l'un des membres du duo Pony Hawks. Il a la gueule cassée, celle d'années musicales, hein, comme des tortures psychiques. Et elle, Ariel Dombal, est frivole, libre. Elle chante aussi bien du lyrique que de la pop. Et tous les deux réussissent à nous plonger avec cet album, autant dans leur noirceur, leur bizarrerie que leur folie. Elle et Nicolas Kerr, deux âmes frénétiques. On se demande en les regardant ce qui les rassemble, mais finalement tout. Sur cet album, chacun a sorti le meilleur de lui-même pour produire 11 titres prodigieux sur la dureté de la vie, ses mystères comme son romantisme.
Come back alive. C'est pas mal. Hein.
J'adore.
C'est pas
Écoutez
mal.
Le Bernard,
c'est drôlement bien, même.
C'est vachement bien. Tout cela me rappelle, dans une autre vie et à d'autres micros, j'avais reçu Arielle Dombasle assez longuement. Elle était venue pour un autre disque. Elle était venue avec Nicolas Kerr, qui avait ses lunettes noires. On aurait dit qu'il sortait de son lit, il était midi. Enfin bon, il était dans un état extraordinaire. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce conseil, Angèle Châtelier. On s'interrompt une petite seconde et ensuite, on parle peinture, dessin avec la collection Prat. Les dessins avec Diane Chenouda, c'est une exposition Europe 1, on vous en parle dans un instant. Puis moi, alors, j'ai un tout petit polar indien, mais qui tient dans la main, hein, qui est absolument dément. A tout de suite.
Europe 1. Comme tous les samedis, de 6h à 9h, c'est Bernard Porrette sur Europe 1.
La suite de ce tour de table culturelle, donc avec vous, Diane Chenouda, vous nous faites découvrir ce matin l'une des plus belles collections, dites-vous, de dessins de France, la collection Prat, qui est exposée en ce moment au Petit Palais. Alors c'est l'un des musées qui ont rouvert ces derniers jours et c'est un événement européen.
Oui, et c'est une exposition remarquable, hein, il faut le dire, pour qui aime le dessin, puisque sont réunis ici plus de 180 dessins des plus grands maîtres de la peinture française. Poussin, Rodin, Delacroix, Degas, Manet, Cézanne, et même deux très beaux croquis de Baudelaire et des encres de Victor Hugo. C'est fabuleux, hein, cette collection Prat, du nom de ce couple de passionnés qui, en 45 ans, a acquis 220 chefs-d'œuvre du dessin français sur trois siècles, hein, quand même, de 1600 à 1900. Et alors, on a un Delacroix délicieux. Écoutez le collectionneur Louis-Antoine Prat.
Un dessin de Delacroix très célèbre, L'amoureuse au piano, qui est reproduit sur plusieurs pochettes de disques. Alors vous voyez, Delacroix, c'est fait à la pointe du pinceau, c'est extrêmement délicat. Il a représenté cette jeune femme qui joue au piano avec les seins dénudés et elle se retourne vers un amoureux qu'elle regarde. Il suscite un sentiment de mélancolie et de charme tout à fait extraordinaire.
Alors, Diane, dans ces dizaines de dessins, il y a beaucoup d'études de paysages, mais ce sont surtout majoritairement des esquisses de grands tableaux,
oui,
c'est
oui,
ça ?
Oui, complètement, parce que ce sont quand même des fous de peinture aussi. Hein, lui, c'est quand même le président des Amis du Louvre. Hein,
oui.
Voilà. Donc, alors, on a par exemple cette fillette de Degas sur fond vert pour un portrait de famille que l'on peut voir au musée d'Orsay. Mmh. Alors, j'ai demandé à Louis-Antoine Prat ce qu'il aimait au fond dans le dessin. Écoutez sa réponse.
Ce qui me plaît dans le dessin, c'est sa fragilité. Le fait que ces feuilles de papier qui ont traîné dans l'atelier, qui ont après une vie, sont passées dans les mains de plusieurs collectionneurs et tout, souvent, bon, elles ont été brûlées, inondées et tout ça. Le dessin subit beaucoup de difficultés, si vous voulez, à travers sa très longue vie. Ici, vous voyez des dessins comme ceux de Poussin qui ont été conçus vers 1640, c'est-à-dire qu'ils ont près de 400 ans. C'est quand même très impressionnant que des choses puissent... Alors, des bouts de papier, c'est des bouts de papier qui peuvent survivre aussi longtemps.
On sent la passion, hein, de cet homme. Et quand je lui demande le dessin qu'elle préfère,
oui,
bien il répond que c'est le prochain.
Forcément,
voyez. Mais oui,
comme tous les collectionneurs.
Oui, c'est vrai. Alors les époux Prat sont prêts à mettre 50 000 à 100 000 euros pour un dessin. Leur collection a fait le tour du monde. Et à leur mort, ils n'ont pas d'enfants, tout ira à un grand musée.
La force du dessin chef-d'œuvre de la collection Prat. C'est une expo vraiment à ne pas manquer au Petit Palais jusqu'au 4 octobre. Et je rappelle que c'est une exposition Europe 1. Quant à moi, j'ai un choix de polar assez extraordinaire. C'est un tout petit livre indien, je vous raconte l'histoire. Dans la famille d'Alvi, on mange de la viande tous les jours, c'est comme ça. Et le fait d'être en Inde en 1949, et plus encore, le fait d'être tout près d'un temple sacré dont la divinité est strictement végétarienne, n'y change rien. L'écurie d'agneau, c'est pour monsieur le contrôleur des impôts et ses proches. Le riz et les lentilles, c'est pour tous les autres, notamment les domestiques de la maison. Et c'est l'un d'entre eux, Basant Kunar, qui donne l'alerte en pleine nuit. La demeure des maîtres est en feu. Bilan, 6 morts, dont l'autopsie révélera qu'ils ont d'abord été massacrés au gourdin avant d'être brûlés. L'affaire d'Alvi est désormais un crime majeur. L'enquête est confiée au magistrat Sen, qui est efficace, non corrompu et grand carnivore devant l'Éternel. Alors, il est consterné car c'est le cuisinier des d'Alvi qui lui mitonnait ses plats préférés, tous à base de bœuf, de chèvre ou de mouton. Il est donc bien décidé à faire pendre le meurtrier qui l'a privé de son plaisir terrestre favori, la table. Au fond, l'affaire n'est pas bien mystérieuse et son récit tient en une centaine de pages à peine. Mais quelle page ! Dans La vengeance du carnivore, Upamanyu Chatterjee, c'est le nom de l'auteur, nous régale littéralement avec une description très haute en couleur et souvent très drôle d'une Inde, pour nous, incompréhensible. Par la même occasion, il nous rappelle qu'à 70 ans d'écart, l'Inde, fondamentalement, n'a pas changé. Le massacre de la famille d'Alvi pourrait parfaitement avoir lieu hier, et pour les mêmes raisons. Cerise sur le gâteau, La vengeance du carnivore, qui vient de paraître chez Robert Laffont dans la petite collection Pavillon Poche, bénéficie d'une couverture absolument magnifique avec des plans de carnivores dessus. Tout ça pour 9 euros. Alors pourquoi s'en priver, mes amis, je vous le demande.
Ça donne envie.
Exactement. Et puis, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end culturel.
Bon
Allez-en paix. Merci.
Bon week-end.